Bonjour, bonjour. Ah bah dites-moi, il y a du monde. C'est incroyable. Vous êtes au rendez-vous, rapide. Rapide, beau, sympa. Le public de Naotech, quoi. Donc, j'essaye de régler la caméra un petit peu. J'espère que ça tiendra plus ou moins. Salut à tous. Bah, bienvenue dans cette édition flemmard de. du Techscope. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Jérôme. Je suis une version un petit peu plus élégante, un petit peu plus raffinée de Monsieur Kainborg. J'essaye d'avoir une coiffure qui confirme mon estimation. C'est bon, vous m'entendez bien? Donc, effectivement, 10 heures plutôt que 8 heures, j'apprécie énormément la. Le fait que Jérôme ait accepté de faire un Techscope, de faire un Techscope un petit peu plus tard, c'est vrai que c'est un petit peu dur pour moi. Je ne suis pas du matin, on va dire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Béja, je suis podcasteur, donc je fais des trucs en audio, et je suis un collègue de Jérôme depuis bien, bien longtemps. On était dans l'aventure No Watch ensemble. Alors le truc, c'est que je ne sais pas si Naotech tweet en même temps. Donc si jamais... Non, il ne tweet pas. Alors il va falloir... Le problème, c'est que comme je suis sur mon téléphone, je ne peux pas vraiment tweeter automatiquement depuis l'app YouTube. Donc il faut que je trouve le lien de la vidéo et que je la tweete. Et là, je ne vois pas le... Ah voilà. Live maintenant, je vois sur mon browser et je vais pouvoir tweeter ça alors, mais ça ne va pas tweeter avec le compte Nowtech malheureusement. Donc je vais voir si Jérôme est en train de regarder, s'il s'est réveillé pendant ses vacances, bah, il pourra tweeter aussi. Hop, live, Techscope, machin. Bon, bah, je fais le live Techscope 152 à la place de at Jérôme Kainborg. Ah, j'ai pas la place de dire on va tout casser ou un truc comme ça. C'est dommage. Bon, bah, il va falloir se limiter à un tweet normal. Ah bah Jérôme est là, d'accord. Ah zut, donc je peux plus dire trop de bêtises. Bon bah j'ai tweeté si la chaîne Naotech peut retweeter. Merci à ceux qui ont tweeté aussi. Hop, très bien. Bon bah écoutez, je vais revenir sur la partie manuelle du podcasteur parce que Jérôme fait les trucs très très bien. Il nous met un manuel quand quelqu'un d'autre doit faire le Techscope. Il fait un manuel avec tous les détails, la méthode de production avec étape par étape, les horaires, tout ça. Et il dit démarrer à 8 heures précises. Enfin bon, dans mon cas, à 10 heures précises. Et ensuite, la chatroom se remplit pendant 3 à 5 minutes. Et puis après, il faut donner le sommaire. Donc là, j'ai encore 2 minutes pour vous parler un petit peu de ma vie. Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé si j'avais commandé l'iPhone 8. Alors moi, non. J'ai pas commandé l'iPhone 8. Est-ce que... Salut, salut à tous ceux qui y arrivent. Est-ce que vous avez commandé l'iPhone 8, ceux qui sont dans la chatroom, là? Je suis curieux, du coup. Moi, je l'ai pas commandé et je me tâte pour l'iPhone 10. On verra comment ça se passe. Faut ranger les fringues derrière. Oui, c'est vrai que... Écoutez, c'est... Ah, oui, 8 plus. J'attends le 10. Nope, yes, 8 plus. Oh, il y a quand même quelques personnes qui ont pris le 8, certains qui attendent le 10. Ah ouais, il y a quand même, je me tâte pour le 10, toi aussi. Il y a beaucoup de gens qui, enfin plus que je pensais, qui attendent le 10, hein. Il va falloir se battre, je pense, pour en obtenir un. Ça va pas être évident. Bon, en même temps, le public de cette émission est forcément un petit peu plus technophile, on va dire, que la moyenne normale. Et tout le monde ne voudra pas forcément mettre un SMIC dans un téléphone. Je vais pas repartir sur ce débat, je sais que vous en avez parlé, mais j'aurai des choses à dire. Peut-être qu'on en parlera dans le rendez-vous le rendez-vous tech lundi. Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Ah oui, t'es friqué. C'est les gens qui sont friqués qui ont de l'argent pour l'iPhone 10. Bah oui, forcément. C'est sûr que c'est pas un téléphone bon marché. Alors, je vais vous parler un petit peu du sommaire et j'en profite pour dire que Ah, Cassim, tu viens à la rencontre? Il va pouvoir me clasher en direct avec cette histoire. C'est bien, on va pouvoir en débattre. Pour ceux qui ne savent pas, on fait une rencontre pour les auditeurs du rendez-vous tech. Ah non, mais supprimez pas les messages de Cassim, c'est un pote, il rigole. C'est TechScope numéro 552, en tout cas, c'est ce que j'avais vu. Bref, on fait une rencontre demain au Corcoran. Vous connaissez le Corcoran, c'est là que se font les rencontres de Nowtech. Ah, désolé Cassie, mais pas de majuscule. Ah bah voilà, t'avais pas suivi les règles. Ok. Merci Florian, effectivement, faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Bref, déjà 10h06, j'ai une minute de retard sur le sommaire. Alors je vais vous parler un petit peu du sommaire, de ce dont on va parler. Il y a d'abord une histoire d'association de publicitaires qui, oui, pas de passe-droit pour les copains, c'est vrai. Je ne savais pas qu'il avait contrevenu aux règles. Vous voyez que c'était simplement vous pensiez que c'était un troll. Bon, c'est aussi un troll, mais bon. Donc, pardon, les groupes de pub sont énervés contre Apple. Une histoire pleine d'hypocrisie et très intéressante, mais en même temps, je comprends, ça peut faire débat ce qui est en train de se passer avec iOS 11. Merci Jérôme pour les tweets. Une histoire de malware assez vicieux sous Android. Je vais vous raconter ça, mais vous allez voir, ça fait un petit peu peur. Un truc qui se camoufle dans les apps et qui se rémunère avec des trucs. Enfin bref, vous allez voir, c'est assez fou. La confirmation de la date pour le Pixel, et là je vous poserai quelques questions. Le Pixel, donc le nouveau téléphone de Google. Quoi d'autre? Alors, je vais encore parler un petit peu d'iPhone, mais bonjour à tous, bonjour à ceux qui arrivent. Oui, Jérôme a une drôle de tête. Étrangement amélioré, non? Comme visuel, n'est-ce pas? Bon, un petit bouton là, mais à part ça, plutôt pas mal. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? C'est toujours la même chose quand il y a un iPhone qui sort. La fin de la semaine, c'est un petit peu le désert médiatique, quoi. Il n'y a franchement pas énormément de grosses news parce que Apple occupe tellement l'espace médiatique que c'est dur d'avoir des trucs, des grosses histoires dont on peut parler qui ne soient pas juste oh, l'iPhone est arrivé, il fait rien de mieux que les autres, il est trop cher, mais en même temps les gens vont l'acheter, il y a des gens qui l'adorent, c'est la révolution, machin. Donc voilà, comme le dit Cassim, les gens ont besoin de se reposer, les journalistes ont besoin de se reposer après 40 articles sur l'iPhone en 2 jours. Donc oui, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai trouvé un petit article sur l'iPhone assez intéressant, sur les différences au fil des années entre les différents modèles d'iPhone, et une comparaison qui est pas mal, on verra ça ensemble. Et puis enfin, à la fin de ce TechScope, je vais vous proposer un petit guide pour les consoles de jeux de cette année, les consoles et les jeux. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des jeux vidéo et surtout des consoles, si vous y connaissez pas trop et que vous voulez faire un cadeau à un petit neveu ou à quelqu'un, ou que même pour vous-même, vous voulez vous remettre au jeu et vous dites une console pourrait être sympa, on va faire un petit passage en revue des appareils, des consoles disponibles, des points forts, des points faibles, tout ça. Donc, comme moi je suis un grand fan de jeux vidéo, je me suis dit qu'un jour où c'était relativement calme, ça pourrait être le bon moment pour faire un petit dossier, un tout petit peu, un tout petit mini poil hors sujet sur ce dont vous avez l'habitude. Donc, on reste dans le. Oui, bah, l'iPhone X, 10, console de jeu, pourquoi pas, hein. Je vais inclure l'Apple TV, l'iPhone, l'Apple Watch, voilà. Ah, Jérôme, il peut pas lire dans le chat ce matin parce qu'il a sa valise à faire. Vous savez de quoi je viens de me rendre compte? Je suis un petit peu horrifié par ce que Jérôme vous a fait. Il est en train de faire sa valise maintenant. Ça veut dire qu'il était disponible à 8 heures ce matin. Ça veut dire qu'il aurait pu faire le Texcope, mais qu'il vous a lâchement abandonné dans les griffes de moi. Les griffes de moi. Si on faisait un podcast, ça pourrait être un titre du podcast. Bon, écoutez, je pense que ça va quand même pas trop mal se passer. D'ailleurs, on va commencer maintenant, puisque il est 8h10 et que à 8h10, dans le document que m'a donné Jérôme, c'est le moment du premier article. Alors, de quoi je vous parle pour ce premier article? C'était cette histoire de pub et des organismes de pub qui sont un petit peu mécontent du comportement d'Apple. Oui, il n'est pas 8h10, pardon, il est 10h10. Mais vous savez, une fois que ça sera passé, une fois que le live sera passé et que les gens le regarderont en replay, peut-être qu'ils pourront croire qu'il est effectivement qu'il est 8h10, que je me suis réveillé tôt. Non, on ne peut pas laisser l'illusion pour ceux qui ne seront pas dans le chat. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces organismes ces associations de publicitaires qui ont engagé une action aux États-Unis contre Apple. Enfin, une action, ce n'est pas une action légale, hein, parce que Apple a le droit de faire ce qu'ils font, mais ils ont publié une lettre ouverte où ils veulent prévenir le public de ce qui est en train de faire Apple. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Apple avait annoncé qu'avec iOS 11, il y aurait un changement radical dans la gestion que fait Apple des cookies. Vous savez, les cookies, c'est les petites traces numériques que laissent les pages web et les publicitaires sur votre ordinateur ou téléphone quand vous visitez un site pour construire, en fait, ils peuvent s'en servir pour construire une sorte de profil de l'utilisateur. Ah, Jérôme a précommandé une Apple Watch 3 et l'iPhone 8, donc pas d'iPhone 10, d'après. Ou peut-être que tu achèteras aussi un iPhone 10. C'est vrai que, bon, Jérôme, on sait qu'il est un petit peu bourgeois, donc il achète tout ce qui sort. Pardon, donc, les cookies peuvent servir pour construire un profil des utilisateurs, et donc pour pouvoir faire en sorte que les gens qui veulent vous proposer de la publicité puissent savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vous traquer, etc. Et ce qu'a proposé Apple avec iOS 11, c'est de faire. Alors, attendez que je vous retrouve le titre exact de leur fonctionnalité. C'est le Intelligent Tracking Prevention, qui en gros fait en sorte que quand vous allez sur un site, vous allez avoir un set de cookies. Et si vous allez sur ce site une autre fois ou sur un autre site, il va créer un autre type, un autre cookie qui n'est pas en rapport avec le premier. Ce qui veut dire qu'il est impossible ou sans doute très difficile pour les publicitaires, pour les annonceurs, de construire un profil cohérent pour un même utilisateur. Et qu'est-ce que ça pose comme. Alors, le but est bien sûr d'éviter que vous soyez traqué partout sur Internet avec la pub. Et on s'en doute, c'est dû au business model d'Apple qui, lui, ne fait pas d'argent sur vous. Sur le. Ah, Jérôme dit qu'il va revendre l'iPhone 8 Plus après, c'est juste pour le test. Bon, alors ça va. Donc, ça va empêcher de créer un profil. Et. C'est le business model d'Apple qui permet ça, puisqu'ils vous vendent des appareils très chers et ils ne sont pas comme Google qui se fait de l'argent sur vous ensuite avec la pub. Et bon, je suis interrompu par Jérôme en permanence qui était censé faire ses valises. Merci monsieur, qui dit oui, il y aura aussi le 10 pour le test. Donc très bien. J'imagine qu'une chaîne comme Nowtech, s'il n'y a pas un test de l'iPhone 10, c'est un peu une occasion manquée, on va dire. Donc, focus, ben oui, mais il y a le propriétaire de la chaîne qui est là, il dit des trucs, moi je suis, c'est la révérence pour le créateur. Donc. Et donc, si il est plus difficile de construire un profil pour vous, les publicitaires se plaignent parce que, oui, vous ne serez pas traqué, mais en même temps, vous ne serez pas traqué. Et je vais prendre, dans l'ensemble, on va dire, je suis quand même plutôt du côté d'Apple dans l'histoire. Je dirais que c'est une bonne chose de bloquer le tracking intensif des annonceurs. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est une solution qui me plaît. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, il y a plusieurs choses. D'une part, alors, par exemple, Cydalie dit pour nous les consommateurs, c'est top. Oui et non. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas que vous allez avoir moins de pubs. Hein. C'est pas que la pub va disparaître de vos sites web. Il n'y a pas. Là, vous pouvez avoir un ad blocker, machin, pour faire disparaître la pub. Mais là, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas que vous ayez moins de pubs. Le but est que les annonceurs ne sachent pas qui vous êtes. Alors, qui vous êtes, façon de parler, ce que vous aimez et votre situation, etc. Alors oui, c'est bien, on se dit ouf, on n'est pas traqué. Et encore une fois, moi, a priori, je suis plutôt d'accord avec cette idée. Mais du coup, ça veut dire que les annonceurs ne sauront pas vous proposer des publicités qui vous correspondent. Donc, oui, il y a une pub sur 100 qui va vraiment vous intéresser et sur laquelle vous allez cliquer, mais généralement, ils essayent de faire des pubs dans des domaines qui vous intéressent. Genre, si vous n'avez jamais acheté un sac Hermès de votre vie, bah, ils ne vont pas vous proposer des trucs de maroquinerie de luxe, quoi. Ils vont plutôt, si vous êtes fan de technologie, ils vont plutôt vous proposer des objets technologiques, des petits gadgets, des petits machins, que vous avez une maigre chance d'être dans lesquels vous allez être intéressé. Alors Cassine dit, genre, si vous avez acheté des écouteurs, ils vont vous proposer des écouteurs pendant 2 mois. Oui, bien sûr, le système est clairement pas parfait, mais il est en même temps, si vous achetez des écouteurs, eh ben, peut-être qu'ils vont vous proposer des autres accessoires pour votre appareil mobile, quoi. Ou ils savent que vous êtes fan de ce genre de truc. Enfin, oui, vous avez compris le principe. L'autre truc qu'ils disent, c'est que ça met en danger le modèle commercial, le modèle d'affaires d'Internet en général, puisqu'il y a une énorme partie de l'infrastructure du net qui fonctionne avec la pub. Ce qui n'est pas faux non plus. C'est-à-dire que si les pubs sont moins appropriées, si les pubs sont moins ciblées, ça veut dire que les gens vont moins cliquer dessus. Parce que bon, même si vous et moi, on ne clique pas tellement sur les pubs, le fait est que bah, y a des gens qui le font. Mais si elles sont moins ciblées, ça veut dire que les gens vont moins cliquer dessus, donc que les publicitaires vont moins faire d'argent, les annonceurs vont moins avoir de résultats avec les pubs qu'ils font. Et il y a ma femme qui passe dans le truc, donc il ne te voit pas là. Voilà. Ma
Hello.
femme vous dit bonjour. Bonjour. Bonjour à madame. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les pubs vont être moins cliquées, donc les annonceurs vont être moins enclins à faire de la pub. Ça peut poser un problème, quoi. Ça peut poser un petit problème tout le monde te dit bonjour, là.
Bonjour.
Sérieux, il y a des gens qui cliquent sur les pubs? Bah oui, bien sûr, sinon les pubs n'existeraient pas, forcément. Donc bref, voilà, c'est toute la question du truc. Alors là, les annonceurs, en même temps, bon, c'est un petit peu, on lève les pancartes, on va manifester. J'ai bien lu ta remarque. On a dit Medivh, pas Anduin. Et donc, Ils ont fait une lettre ouverte où ils disent « Ah mais voilà, les utilisateurs vont y perdre, c'est un scandale, regardez, Apple fait des trucs complètement propriétaires, ils ne peuvent pas prendre des décisions unilatérales de cette manière, machin. » Bon, oui, clairement, il y a un petit peu de ces genres l'outrage un petit peu facile, quoi. Mais ouais, tiens, c'est Victor qui dit « J'ai découvert des applications grâce à certaines pubs sur Facebook. » Alors, ça m'amène à l'autre élément de cette controverse, qui n'est pas l'élément discuté dans cet article spécifiquement, mais qui est aussi hyper intéressant, parce que les cookies, ils fonctionnent pour des sites, les annonceurs devraient ouvrir des Tipeee. Non, le problème, ce n'est pas les annonceurs dans cette équation. Le problème, c'est les éditeurs, les gens qui publient des sites. Les créateurs de contenu, les annonceurs, bon, bah, ils trouveront d'autres moyens pour faire de la pub. Enfin, ils feront de la pub, je ne sais pas, peut-être ailleurs. Mais les gens qui font des sites web, c'est comme si les annonceurs se refroidissent, bah, voilà, ça va être compliqué pour ceux qui se font payer par les annonceurs. Donc, c'est ça le problème. Ce n'est pas les gens qui font la pub eux-mêmes qui seront le plus impactés, en tout cas. Mais. Au revoir mon cœur. À ce soir. Ciao. Et donc, l'autre histoire qui est hyper intéressante aussi, c'est que il y a quelqu'un citait Facebook. Les cookies, ça marche quand ils mettent un petit morceau de code sur votre ordinateur. Mais il y a un autre moyen de vous traquer. Un moyen, bon, il y a des histoires d'IP, mais ça peut être manipulé. Mais il y a aussi le tracking par les régies pub type Facebook, Google, d'autres, il y a LinkedIn qui va en commencer. Le ton de la voix est différent quand il nous parle et quand il parle à sa femme, c'est pas faux. Et donc, il y a toutes ces régies pub qui utilisent votre compte pour vous traquer. Ça veut dire que si vous êtes logué sur Facebook, il y a, vous savez, le petit bouton Facebook, like, machin, partagé sur Facebook, sur le site. Et comme vous êtes logué sur Facebook, bah, le petit bouton, c'est en fait une mini-page Facebook, on va dire, qui est liée à votre compte. Donc Facebook sait ce que vous êtes en train de regarder, les sites que vous visitez le plus souvent, etc. Google, pareil, vous avez le compte Google, il est logué partout. LinkedIn est en train de faire la même chose. Donc ces gens-là, c'est aussi des régies publicitaires. Et ils vont, eux, ça change absolument rien pour eux, cette histoire de intelligent tracking, prevention, machin. Donc, ça va renforcer, finalement, ces régies publicitaires-là et affaiblir les indépendants, on va dire, enfin, les publicitaires, les autres. Donc, la conclusion de cette histoire, c'est que tout n'est pas rose ou tout n'est pas noir ou blanc. Moi, encore une fois, je suis plutôt du côté d'Apple dans l'histoire et je pense qu'il est bien qu'il y ait une option d'un comment dire, d'un operating system, d'un système d'exploitation, voilà, où ben, les utilisateurs sont camouflés autant que possible. Mais comme on l'a vu depuis le début de cette news, c'est pas que ça, c'est pas la seule donnée à cette équation. Je crois qu'il est très facile de se dire ouais super, fuck les publicités, fuck les pubs, c'est tout. Mais bon, comme on l'a vu, il y aura quand même des pubs, il y aura quand même les régies, les grosses régies Facebook machin qui fonctionneront toujours aussi bien, et ça fait moins d'argent pour les, peut-être potentiellement moins d'argent pour les sites qui créent le contenu. Donc, bon, on peut être d'accord ou pas, mais je crois qu'il y a. Oui, non, mais encore une fois, c'est pas une histoire de. Oui, c'est pas une histoire d'adblock. Là, ça bloque pas les pubs, hein. Je vois des commentaires dans la chatroom. Donc, bref, faire la pub, pas la guerre. Pas mal, Victor. Passons à l'histoire suivante, le sujet suivant, qui est Expensive Wall. Alors, qu'est-ce que c'est que Expensive Wall? C'est une sorte de malware qui a été découvert par des chercheurs sur Android. Alors, il y a des malwares sur toutes les plateformes un petit peu tout le temps. c'est pas si surprenant que ça, mais là où j'ai trouvé celle-ci, ce malware-là intéressant, c'était par son mode de fonctionnement. Google Play a supprimé une cinquantaine d'apps qui ont été téléchargées 4,2 millions de fois, donc ça fait ça fait quand même du monde. Et la manière dont elles fonctionnent, c'est qu'elles ont une petite partie de programme qui est chiffrée et qui passe donc à travers les scans de Google pour vérifier que les choses que les logiciels n'ont pas justement de partie dommageable. Et donc, ils sont chiffrés. Une fois installés sur l'appareil, bah, ça déchiffre cette partie, ça décrypte plutôt cette partie. Et le logiciel, à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va uploader vos informations sur un serveur distant. Et en gros, je vous passe les détails parce que je ne les ai pas exactement bien compris moi-même non plus. Il va vous faire appeler des numéros de téléphone surtaxés et envoyer des SMS surtaxés. Et du coup, ça va vous faire payer, ça va vous soutirer de l'argent avec sur votre compte de téléphone, quoi. Ça n'utilise pas votre compte Google en vous en payant des trucs genre sur le Play Store, mais sur votre abonnement téléphonique. Et du coup, ça peut en faire, bah, vous imaginez, beaucoup d'appels surtaxés comme ça. Et ça va payer les apps de cette manière. Donc, c'est une méthode hyper vicieuse que j'ai trouvée même assez intelligemment conçue, on va dire. Et heureusement, ils ont réussi à la trouver. Et là, Google a supprimé les apps. Mais le truc, c'est que c'était la deuxième fois que ce type de excusez-moi, j'ai pas suivi ce qui se passe dans la chatroom. Visiblement, il y a un truc qui se passe. Bon, si vous pouvez m'expliquer. Donc, c'est pas la première fois que des développeurs d'app mal intentionnés utilisent cette obfuscation de la partie néfaste de l'app. Et Google avait déjà supprimé une première série d'apps qui avaient utilisé ce type de cryptage pour camoufler la partie néfaste. Mais visiblement, il semblerait que il n'est pas de technique fiable pour scanner c'est les trucs quand c'est chiffré. Alors, je ne sais pas si Google va réussir. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Je vais voir vous commencez à m'inquiéter là. Il se passe vraiment un truc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quoi? Il y a une attaque. Une explosion dans le métro de Londres. Ok. Merde. Ah, rien de grave, ok. Pff, vous me faites peur, les gars. Rien de grave? C'est léger, d'accord. Il n'y a pas de victime, c'était un colis piégé. Ok. Mais il n'y a pas de victime. Quelques blessés. Ok, merci, Cassim. Oui, non, mais vous m'avez fait peur, là. Bon, quelques blessés, une petite explosion, d'accord. Heureusement, espérons que ça ne soit pas quelque chose de plus grave, ensuite. Bon, écoutez, on va continuer avec les news, hein, si c'est pas trop grave. Bref, il y a eu un malware sur Android et Google a supprimé les pubs, les mauvaises apps. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ça continuera à arriver avec cette méthode de chiffrage qui est quand même très pratique pour camoufler ce type de comportement. Donc voilà, je suis curieux d'ailleurs de savoir si ça pourrait arriver sur l'App Store aussi, parce qu'aujourd'hui, Google est relativement strict avec son Play Store, un petit peu moins qu'Apple quand même, mais ce type de un chiffrage, un cryptage pour camoufler une partie d'une app, j'imagine que ça serait possible à faire sur un autre App Store aussi. Peut-être que Apple, quand ils voient une partie de l'app qu'ils ne comprennent pas du tout, ils ne laissent pas passer ou ils demandent plus de détails. Bon, je ne sais pas. Le sujet suivant, c'est un truc un petit peu plus rapide. Le Pixel sera bien annoncé le 4 octobre, donc le nouveau téléphone de Google. Et je suis curieux de savoir ce que vous en attendez de ce Pixel. Moi, je crois que le truc qui est évidemment le plus attendu, c'est de voir s'il va avoir un truc sans bord, le bezel-less, qui est devenu maintenant la mode de 2017 sur tous les téléphones. Mais bizarre que le live a commencé à 10h30, mais il n'a pas commencé à 10h30. De quoi parles-tu ? Donc, le HTC, pas le HTC, d'ailleurs peut-être que ça sera un HTC, mais oui, donc le Pixel, le nouveau Pixel, qu'est-ce que vous en attendez ? Déjà, il n'est pas disponible en France. Est-il disponible en France ? Oui, le premier ne l'est pas. Il faut espérer que le deuxième soit disponible. Voilà, vous êtes plusieurs à dire qu'effectivement, la première chose, ça serait disponible en France. Sans bordure et double module photo, comme d'hab, ouais, comme dit Florian. C'est-à-dire que bon, c'est effectivement ce que font tous les constructeurs aujourd'hui. Donc, on peut s'attendre à ça au moins, au minimum, je pense. À part ça, je dirais, c'est les grandes tendances de la téléphonie de ces dernières années. Je ne suis pas certain qu'il y ait grand-chose de plus qu'on puisse attendre vraiment d'un Pixel. Est-ce qu'il y a un truc genre une grosse surprise, un truc qu'on ne... Moi, je pense, par contre, qu'ils vont faire un gros focus sur la réalité augmentée. Vous savez qu'ils ont sorti AR Core, qui est un petit peu l'équivalent de AR Kit d'Apple pour Android. Et AR Core, en fait, fonctionne sur... C'est une sorte de mini-projet Tango, mais sans besoin de tous les capteurs supplémentaires. Et du coup, je me dis, ils vont aussi parler de la réalité augmentée, remettre un petit coup sur la réalité augmentée. Donc, je pense que ça fera partie du truc, quoi. D'autant plus que AR Core a l'air d'assez bien fonctionner également. Mais bon, c'est vrai que le truc qu'on attend, c'est est-ce qu'il sera disponible en France ou pas. C'est la grosse question. Bon, voilà, donc ça, c'était une petite partie sur le Pixel. Je remarque quand même qu'il n'y a pas énormément de choses qu'on peut attendre, finalement, des téléphones. C'est un petit peu comme, tous les smartphones aujourd'hui. Bon, à part le prix, peut-être qu'ils vont nous surprendre avec un prix différent. Il n'y aura pas de prise jack, bon, ça c'est possible, oui, ça aussi c'est une tendance. Donc, bref, voilà pour le Pixel 2. Et donc, j'ai cet article de iPhone.fr, iPhone sans E.fr, qui compare les fonctionnalités des différents modèles depuis quelques années, les différents modèles d'iPhone, et du 10 aujourd'hui. Alors, avec le 10 ou avec le 8 ? Non, pardon, c'est juste avec le 8. Et en fait, c'est assez intéressant, j'ai trouvé l'article intéressant, parce que quand on prend une génération de différence, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas énormément de différence. Et on a un peu l'impression que les téléphones d'une année sur l'autre, aujourd'hui, que ce soit, bon, là, c'est l'iPhone, mais c'est un petit peu la même chose pour toutes les marques, on a un peu l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui change et que c'est un petit peu les mêmes depuis des années. Et, bon, soyons honnêtes, les téléphones ne changent pas énormément non plus. On n'est plus à des différences majeures. Mais Quand on remonte jusqu'à l'iPhone 6, là, je vais vous faire la liste des fonctionnalités qui ont été ajoutées entre l'iPhone 6 et l'iPhone 8. Et vous allez voir que quand même, il y a quelques trucs, quoi. Le 3D Touch, les live photos, la prise jack a été supprimée, donc ça, c'est pas forcément une bonne chose. Recharge sans fil, je vous rappelle qu'on parle du 8, recharge rapide. Processeur A11 plus puissant, ça c'est normal. Haut-parleur stéréo, bon, ça ne change pas le monde, mais c'est quand même une différence. Capteur calibré pour la réalité augmentée. Écran True Tone, enregistrement 4K à 60 images par seconde au lieu de 30. Ralenti en 1080p en 240 images par seconde au lieu de 120. Bluetooth 5 au lieu de 4. NFC avec mode lecteur au lieu de seulement NFC. Prise en charge du contenu HDR10 et Dolby Vision, donc le HDR, le HEVC, donc le contenu, le codec haute qualité vidéo sous iOS 11, faire du 1080p avec le capteur avant. Donc là, par exemple, moi, je ne peux pas faire du 1080p avec mon appareil, mais ça a changé. Il est un mini poil plus lourd, genre 5 ou 10 grammes. Éclairage portrait, vous savez, le mode portrait avec les différents types d'éclairage. Un écran plus lumineux. Résistance IP68. Téléobjectif avec ouverture 2,8 pour le 5 pouces. Hein, ça, c'est le plus qui a beaucoup plus de qualité. Stabilisation optique de l'image. Ouverture 1,8 au lieu de 2,2. True Tone Flash également. Enfin bon, la liste, je ne sais pas si ça vaut le coup pour changer de téléphone. Moi, je crois que pour un utilisateur de téléphone classique, je suis d'accord que même avec toute cette liste, si quelqu'un fait. J'étais chez ma mère hier, j'étais chez ma maman, elle me disait, bon, j'ai un iPhone 6. Est-ce que ça vaudrait le coup de passer à un autre modèle? Moi, je lui ai dit, franchement, elle fait quoi? Elle fait des mails, un petit peu de navigation sur Internet et elle regarde un peu la télé sur son téléphone de temps en temps. C'est sûr que pour un utilisateur comme ça ne vaut pas vraiment le coup de changer de téléphone. Par contre, pour un utilisateur qui aime la technologie et qui va. Utiliser, c'est tout bête, hein, mais juste pour prendre des photos, avoir des meilleures photos, avoir le Bluetooth 5 au lieu du Bluetooth 4, la meilleure qualité d'écran, ça va peut-être plus se ressentir chez une personne qui est plus attentive à ce genre de choses. Le 3D Touch, bon, ça sert, je vous avoue que ça ne sert pas énormément, mais certaines personnes s'en servent peut-être. En gros, je suis un petit peu en train de me demander si ça vaut le coup. J'avais lancé la discussion en disant, oh, ça vaut. Il y a énormément de choses qui changent. Et puis en fait, je me dis, oui, il y a une grosse liste, mais est-ce que toutes ces différences valent le coup de payer 700 euros pour changer de téléphone? Là, on parle entre le 6 et le 8. J'avoue que je suis même pas convaincu. Je sais pas, pour moi. C'est le genre de truc dont. Ah, tiens, Tuto dit qu'il est ultra fan du 3D Touch et qu'il ne veut plus de téléphone sans 3D Touch. OK. S'il avait le 6, il changerait, dit Hervé, rien que pour la photo. OK. Le 6S fait les photos sympas, ça suffit pour la plupart des gens. Bon. C'est vrai que tout ça, c'est des questions finalement assez personnelles, je crois. Oui, la grosse différence pour Cassim, c'est est-ce que le 6 sera lent sous iOS 11? Ça, je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai pas testé la chose. S'il y a une perte de performance, c'est sûr que ce n'est pas génial. Mais je crois que oui, comme toujours, ce genre de truc, bah, c'est une question personnelle finalement. Il y a une question de choix. Ah, Jérôme nous dit le SE est très rapide sous iOS 11. Bon. Et juste après. Coldiary nous dit le mien avec iOS 11 était inutilisable. Bon, donc on a un petit peu les deux avis opposés. En même temps, le SE est un petit peu plus rapide que le 6. Donc, Et Cassim dit passer de la 8 à la 11 bionique quand même. J'ai toujours pas compris pourquoi il était bionique, hein, la 11. Bref. Donc, voilà pour les différences entre l'iPhone 6 et l'iPhone 8. Je crois qu'on a effectivement une réponse, c'est-à-dire que ben c'est une question de choix complètement personnel, quoi. Bon, bah écoutez, on va passer à notre mini dossier, du coup, notre mini dossier gaming. Donc, je vais essayer d'aborder ça d'une manière quand même assez abordable pour les gens qui sont pas super fans de jeux vidéo. L'idée est pas de réexpliquer aux méga gamers ce que sont les consoles, parce que vous le savez déjà. L'idée est plutôt de penser aux gens qui sont pas méga gamers et qui seront peut-être amenés à être en contact avec des jeux vidéo pendant cette période de l'année, de fin d'année, soit parce qu'ils veulent faire des cadeaux, soit parce que ils ont des amis ou de la famille qui est intéressée par ces choses. Donc, résumé, surtout du matériel, donc des consoles, lesquelles sont bien, lesquelles ont des avantages, des inconvénients, lesquelles acheter, etc. Et j'ai pris l'occasion de l'article, d'un article qui parlait du fait que Nintendo a annoncé un bundle pour sa Switch, pardon, avec Super Mario Odyssey, qui est un des gros titres de cette année. Et bah justement, commençons par la Switch, justement, parce que je pense que ça sera l'appareil qui sera le plus intéressant pour les gens les moins fans de gaming. La Switch, pour ceux qui ne savent pas, c'est une console qui peut être utilisée en version portable et en version télé. J'ai la mienne ici, je vais vous la montrer. Bon, je pense que vous connaissez, on a vu les pubs partout, mais bon, version portable, ça donne ça. Donc, elle est quand même un petit peu mastoc par rapport à un téléphone. Mais bon, c'est une console qui est largement portable. On n'est même pas du niveau du transportable là. On est bon, portable, elle a 3 heures d'autonomie. Et vous pouvez la brancher, la mettre dans un dock. Et du coup, vous pouvez, par exemple, décrocher les manettes. Hop, vous avez déjà dû voir ça. Vous pouvez décrocher les manettes et jouer depuis votre canapé. Il y a d'autres manettes spécialisées, etc. Donc, cette console, c'est un petit peu qui a switché sa Wii U pour une Switch. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens parce que la Switch est vraiment contre les attentes de certains, une console qui a beaucoup de succès et qui a une assez qui est de très bonne qualité, tout simplement. Bon compromis pour les gamers non gamers. Je ne sais pas quand même, parce que je ne sais pas quel jeu je pourrais recommander sur Switch à des gens qui ne sont pas vraiment gamers. Sur d'autres consoles, on a des jeux très casual, des jeux où il suffit de suivre l'histoire, machin. Là, c'est vrai que c'est une console conviviale. Il y a quelques jeux party game, comme sur la Wii à l'époque. Mais oui, il y a One Two Switch, mais c'est vrai que ça peut être sympa. C'est des petits jeux, donc ce qui se passe avec One Two Switch, c'est que on prend les deux manettes comme ça, hop, chacun prend une manette, et puis on va devoir appuyer le plus vite possible pour tirer dans un duel de cow-boy, etc. Il y a des mini-jeux comme ça, où on va plutôt se regarder l'un l'autre que regarder l'écran. Mais c'est vraiment le seul jeu un petit peu casual. Je ne sais pas si une console à 300 et quelques euros, ça vaut le coup pour des gens qui sont vraiment pas super fans de jeux vidéo. Moi, c'est pas un truc que je recommanderais. Par contre, si vous êtes fan de jeux vidéo, il y a le jeu Zelda qui est très 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 réussi. Puis il y a un jeu Mario qui arrive, c'est toujours un succès. Il y a le jeu Mario Kart qui est très sympa aussi et qui est très sympa pour jouer à plusieurs, ce qui est possible sur cette console. Donc, il y a un attrait qui est Victor dit, ça rappelle la première Wii, pas vraiment, parce que c'est le seul jeu qui fonctionne de cette manière. Tous les autres, c'est justement des vrais jeux. il y a des jeux comme... Alors, quel niveau de gaming, on va dire, des trucs genre Mario Kart, ce genre de truc, effectivement, ça peut être sympa à jouer, mais c'est quand même déjà pour les gens qui sont des joueurs. C'est pas des gens qui vont jouer à Wii Sport au lieu de sortir le Monopoly, quoi. Donc voilà, pour la Switch, elle coûte environ 300 euros. Et je pense que c'est une belle console pour les jeunes aussi. Si vous avez des petites nièces, des petits neveux qui sont, ou des enfants hein, tout simplement, qui aiment bien le jeu vidéo, un des trucs qui est sympa, c'est que sur Nintendo, avec la Switch, on est un petit peu tranquille. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur est-ce que tel jeu. Oui, il faut quand même regarder l'âge du truc, mais on a des jeux pour des tout petits enfants, genre 5-6 ans. Il y a plein de jeux que vous pouvez acheter sans aucun problème et sans vous poser de questions. Donc, ça, c'est un avantage quand même. Mais, alors, elle se vend super bien, elle a un beau catalogue. Si vous êtes vraiment gamer, vous le savez, il y a un beau catalogue de jeux indépendants. Mais la grosse ironie de tout ça, c'est bah, très bien Florian, oui, c'est une excuse, tu vas la demander pour tes enfants, c'est parfait. La grosse ironie, c'est qu'aujourd'hui, la Switch est plus chère que les consoles de salon. C'est-à-dire que on va, a priori, on risque d'avoir un tout petit peu de mal à la trouver. Si vous en voulez une, peut-être commencez à y penser début octobre plutôt que fin octobre ou novembre. Mais elle risque d'être donc, de par cette pénurie annoncée, sans doute rester à son prix de 300 euros. Et les autres consoles, PlayStation et Xbox, elles sont à 300 euros environ, mais il y a des promotions, et surtout, il y a des promotions avec énormément de jeux. C'est-à-dire que la Switch, elle va être vendue à un petit peu plus de 300 euros, sans doute 359, j'imagine, avec Mario. Qui est un des jeux indispensables pour la console, j'imagine, c'est toujours le cas, il n'est pas encore sorti, mais c'est ce qu'il semble se profiler. Et les bundles pour la PlayStation 4 et la Xbox One, ils sont généralement à moins de 300 euros, voire à 300 euros avec 5-6 jeux, c'est ce qui s'était passé l'année dernière, c'était totalement fou. Et donc, ça, on arrive dans une position où ces consoles-là sont moins chères, donc les grosses consoles un petit peu plus puissantes sont moins chères que cette. Ce petit machin, quoi, qui a des avantages, mais qui n'a pas un catalogue aussi vaste que les autres consoles, et puis dont les jeux, soyons honnêtes, ne sont pas aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans un débat sur la qualité des jeux, mais les gros jeux AAA de l'année, genre Call of Duty, FIFA, Destiny, enfin, les gros jeux. Bah, ils sont plutôt sur les autres consoles, quoi. Donc, quel est l'état des lieux de ces autres consoles? C'est aussi un truc qui peut vous intriguer parce que pour chaque modèle, il y a en fait deux modèles. C'est-à-dire que pour la PlayStation 4, on a la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro. Et pour la Xbox, on a la Xbox One et la Xbox One X. Alors, la Xbox One aujourd'hui, c'est la Xbox One S. Attention à ne pas confondre. C'est le modèle d'aujourd'hui, assez compact, bien conçu, silencieux, etc. Xbox One X. Xbox One S. Donc ça, c'est le petit modèle. Et le gros modèle, c'est la Xbox One X qui va sortir en novembre. Alors, quelle différence entre PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro d'abord? Je vois un petit peu. Pour reprendre mon souffle. The Wanderer dit que la Nintendo Switch n'a pas un catalogue très mûr. C'est pas tout à fait vrai. La Xbox One, la PlayStation. Putain. C'est dur de parler pendant 1 heure sans s'arrêter. La Switch a un catalogue très mûr pour les jeux Nintendo. C'est-à-dire qu'on a Zelda, Mario qui arrive, Mario Kart, Splatoon, Arms, et d'autres jeux qui arrivent. Niveau des jeux Nintendo, c'est plus que tout ce qu'on aurait pu espérer dans la première année de la console. C'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de jeux d'autres éditeurs, mais c'est en train d'arriver aussi, hein. Vu le succès de la console, le problème c'est plutôt la puissance de la console qui rend les portages de gros jeux un petit peu compliqués. Bref, PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro. Alors, la PlayStation 4 coûte aujourd'hui 300 euros, la Pro 400. qu'est-ce que vous avez pour ces 100 euros de différence? Un petit peu plus de puissance, la possibilité d'afficher sur, enfin un petit peu plus, on va dire sensiblement plus de puissance, la possibilité d'afficher en 4K, mais uniquement pour les jeux, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas les Blu-ray 4K, donc pour les jeux, pour Netflix, pour les services en ligne, ce genre de choses. Et les jeux sont un petit peu plus beaux sur la PlayStation 4 Pro. Je dirais que dans le contexte de la PlayStation, c'est seulement 100 euros de plus, mais les bénéfices sont relativement minimes. On va parler de la différence entre la PlayStation et la Xbox dans un instant. Mais les bénéfices sont quand même relativement minimes. Ils sont là, mais ça ne va pas vous changer la vie. Je dirais que si vous avez une télé 4K et que vous voulez une PlayStation, peut-être envisager l'achat d'une Pro. Si vous n'avez pas de télé 4K et que vous ne comptez pas acheter de télé 4K aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux mettre moins d'argent, acheter une PlayStation 4 avec un bundle avec plein de jeux, par exemple, ou une bonne promotion, parce que la 4 Pro ne vous apportera pas énormément de choses. Entre la Xbox One S et la Xbox One X, les différences sont déjà beaucoup plus importantes. Et le prix aussi. C'est-à-dire que la Xbox One S est autour de 300 euros, encore une fois un petit peu moins cher avec les promos certainement pour Noël. La Xbox One X est à 500 euros. Par contre, elle est beaucoup plus puissante. C'est-à-dire que là, vous allez sentir une différence dans les graphismes vraiment importante. En 1080p et en Ultra HD, en 4K. Donc, si vous avez une télé 4K et que vous voulez en quelque sorte un gros PC, entre guillemets, et que vous ne voulez pas payer 1500 ou 2000 euros pour avoir un gros PC de jeu, mais que vous voulez être tranquille avec, dans votre canapé avec la console branchée sur la télé, et basta, j'ai plus à m'emmerder pour quoi que ce soit, vous pouvez choisir une Xbox One X et vous payerez 500 euros au lieu de, entre guillemets, 2000 euros pour un PC. Là encore, je pense que c'est plutôt le cas si vous avez une télé 4K. Pour une télé 1080p, ce n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, la Xbox One X fait aussi Blu-ray 4K. Donc, vous avez tous vos contenus 4K avec cette console. Elle sera disponible uniquement en novembre. Donc, entre les deux, je dirais que si vous voulez une machine puissante, l'achat d'une Xbox One X se justifie plus, à mon sens, que l'achat d'une PlayStation 4 Pro. Maintenant, il y a la question entre Xbox et PlayStation, qui sont un petit peu le même type de cible. La Nintendo Switch est à part. La PlayStation et la Xbox One se font vraiment concurrence. Alors, quelle est la différence qui va vous permettre de faire le choix entre aller vers l'école Microsoft ou aller vers l'école Sony? Généralement, pour ce type de console, pour ce type de machine, c'est les jeux exclusifs qui vont faire la différence. Sur la console de Microsoft, il y a certains jeux comme Forza Motorsport, Halo, Gears of War, qui sont exclusifs. Pour lesquels, alors je me fais beaucoup engueuler quand je dis ça, mais il n'empêche que c'est quand même mon avis. Les jeux exclusifs de la console de Microsoft, il y en a beaucoup moins, et ils sont un petit peu passés, je dirais. C'est-à-dire que le nouveau Gears of War, c'est un petit peu comme l'ancien Gears of War. Le nouveau Halo, c'est un petit peu comme l'ancien Halo. Il n'y a pas eu même pas de grosse surprise, il n'y a pas eu de surprise du tout, finalement. Certains de ces jeux, comme le fait remarquer Christophe, sont aussi sur Windows, mais bon, ça, à la limite, c'est un autre problème. Mais sur console Microsoft, si vous aimez ces jeux spécifiquement, je pense que oui, il y aura un intérêt à la console Microsoft. Cédric nous demande quid de la réalité virtuelle. C'est vrai qu'il risque d'y avoir de la réalité virtuelle avec les casques prévus pour les machines Windows, qui risqueront d'être facilement adaptables à la Xbox One X, notamment. La PlayStation a déjà son PlayStation VR. L'un dans l'autre, moi, je dirais, ce n'est pas un facteur de choix, à moins que vous soyez super méga fou de la VR. C'est très accessoire encore aujourd'hui. Donc, pour la console Microsoft, si vous aimez spécifiquement ces jeux-là, je dirais évidemment le choix se porte plutôt du côté de la Xbox. Par contre, sur PlayStation 4, il y a eu clairement au niveau du développement et de la politique du constructeur des conséquences qui ont fait que les exclusivités sont un petit peu plus sur PlayStation 4. Ils ont plus d'exclusivités, ils ont plus de titres. Tuto dit God of War, Bloodborne, Nioh, Last Guardian. Voilà, il y a effectivement, même si on ne prend pas les titres first party, comme bah, justement Uncharted et d'autres de ce type-là, il y a quand même plus de titres exclusifs sur PlayStation 4 que vous ne pourrez avoir que sur PlayStation 4. Donc, c'est un facteur de choix. Maintenant, il faut être honnête, la plupart des jeux sortent sur les deux consoles. Certains jeux vont avoir du contenu exclusif sur l'une ou sur l'autre. Cette génération, c'est plutôt du côté de Sony. Hein, on l'a vu avec Call of Duty, Destiny, etc. Donc, il y a un petit peu de contenu exclusif de ce côté-là. Mais le contenu exclusif, si on ne prend pas en compte les jeux exclusifs, je dirais que l'autre choix à faire, c'est plutôt où sont vos amis. C'est-à-dire que si vous aimez les jeux genre Call of Duty, FIFA, Destiny, et que vos amis sont sur Xbox, bah, ce n'est pas la peine d'aller sur PlayStation pour deux miettes de contenu exclusif. Donc le premier choix, ça serait peut-être les amis qui vont le déterminer si vous jouez à ces jeux-là avec lesquels vous pouvez jouer en groupe. Donc, mais par contre, clairement, au niveau des exclusivités, bah, la PlayStation 4 est la gagnante de cette génération. Ils ont une plus grande base installée et surtout une volonté du constructeur qui semble être plus forte de soutenir la machine et les exclusivités, étant donné que la PlayStation représente une énorme partie du business de Sony, alors que la Xbox représente une plus petite partie du business de Microsoft. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Je crois qu'il faut le dire clairement, toutes les consoles sont bonnes aujourd'hui et il y a des jeux à foison sur toutes les consoles. Ensuite, c'est si vous avez des besoins spécifiques que vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Donc voilà pour ce petit dossier sur les consoles. J'espère que ça vous aura intéressé si vous attendez la période de Noël pour vous plonger dans le monde merveilleux du jeu vidéo, si vous avez des cadeaux à faire. On arrive à la fin de ce petit Techscope. Ah, merci, Guirlando, ça t'a beaucoup intéressé. Bon, 2082 dit non. OK. Bon, Damien dit très intéressant. Il y a quelques personnes que ça a intéressé quand même. Merci. On va passer un petit moment, du coup, les quelques minutes qui restent avec un Ask me anything, comme le fait d'habitude Jérôme. Donc, si vous avez des questions sur moi ou sur la tech ou sur le gaming, ou ah, très intéressant, merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai encore quelques minutes pour vous répondre. Oui, vive les soldes. Effectivement, il y avait l'année dernière des Comment tu vas, Patrick ? Bah, très bien, très bien. Il y avait des soldes incroyables. Et franchement, c'était des trucs, j'avais jamais vu ça. Il y avait des soldes où, effectivement, les consoles étaient au prix de vente normal, c'est-à-dire 299 euros, avec 5 jeux, 6 jeux, et pas des jeux, des vieux jeux qu'ils essayent de refourguer de nulle part. C'était des... Oui, Black Friday, ça existe en France aussi. Pourquoi ? Parce que les grandes sociétés multinationales ont le Black Friday aux États-Unis et donc elles l'émulent un petit peu en France aussi. Donc oui, il y a des promos pour le Black Friday. Émilie demande avec quel téléphone je stream. C'est un iPhone 6S avec la caméra du devant, comme vous vous en doutez. Donc oui, il y avait eu des promos avec, pour 299 euros, la console et 5-6 jeux, et des jeux récents, enfin récents, pas les tout derniers qui étaient sortis il y a un mois, encore que, il y en avait parfois. C'était assez incroyable, donc félicitations, merci Xavier. Il y avait des jeux, des packs avec Watch Dogs, GTA, enfin bref, plein de jeux. ah, Je ne sais pas ce que c'est le bon geste du vendredi de Victor qui a donné un petit peu de sous, je crois, à Nautech, c'est ça? Il y a eu un petit message bleu, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, est-ce que j'ai commandé ma nouvelle Apple Watch? Non. Non, non, je ne l'ai pas commandé. J'ai toujours mon ancienne. Ce n'est même pas une Series 1, c'est la toute première. Toujours content. Ah, c'est un super chat. Oui, donc tu payes un petit peu pour être d'accord. Mais oui, mais moi, je ne connais pas YouTube. Donc, la montre, j'ai une relation très, très ambivalente, ambiguë avec ma montre. Ah oui, tu as quoi comme console, plateforme de jeu? Alors, je vais vous dire ça après. Donc là, je la porte de temps en temps, mais elle ne m'est pas du tout indispensable. J'aime bien la voir. Je la porte peut-être 2 jours, 3 jours par semaine. Quelque chose comme ça. Voilà. Non, mais je connaissais le Super Chat. Je ne l'avais juste jamais vu en action parce que je ne stream jamais. Oui, bon, je suis découvert. Qu'est-ce que j'ai comme console de jeu? Oui, on me demande comment je me sens après 1 heure sans Destiny. Bah, vous voyez, je tremble. C'est pour ça que je veux bientôt finir. Il faut que j'aille. Hop, voilà. Je vais mettre fin au truc. Oui, j'aime beaucoup Destiny, vous l'aurez compris. Donc, qu'est-ce que j'ai comme plateforme de jeu? PC, bien sûr. Mac, je ne sais pas. Patrick, tu seras payé en commission Super Chat, Google Striptease. Super. PC, bien sûr. Mac, je ne sais pas si on peut appeler ça une plateforme de jeu. PlayStation 4, Xbox One, même si elle est un petit peu dans un placard, je vous avoue. J'ai encore ma Wii U, également dans un placard. La Switch. Téléphone, Apple Watch, non, j'ai à peu près tout. Mais c'est pour le travail, vous comprenez, il faut bien se garder au courant de tout ça. Ouais, je suis un petit peu un touche-à-tout, effectivement. Le ton de ce Techscope était très intéressant, très zen, merci donc. Bah, écoutez, je suis content que ça vous ait plu. Le bracelet blanc n'est-il pas trop salissant? Si, il est assez salissant. D'ailleurs, mon jean qui perd un petit peu sa couleur, vous voyez, hop. Ça, c'est juste en frottant un petit peu sur le jean. C'est pour le travail, sa femme a dû l'entendre souvent. Oui, bah oui, ma femme l'entend souvent, les auditeurs l'entendent souvent, moi-même, je l'entends souvent. Je me le dis à moi-même. Bon, bah, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc on va peut-être conclure bientôt. Vous êtes encore 163 à regarder. Mais il n'y a pas vraiment de questions. Je vois que c'est vendredi. Oui, c'est le problème du blanc. Bon, je l'avais acheté, j'avais pris la moins chère possible, juste pour tester. Et je ne suis pas forcément mécontent parce que, oui, je m'en sers. Je regarde l'heure, hein, ça me sert pour ça. Et puis, pour pas énormément d'autres choses. Faire une émission, question, faire une émission. Merde, c'est passé, j'ai pas vu. Faire une émission d'une heure avec Chatroom, tes impressions. C'est pas une question, Jérôme. question, OnePlus 5 ou iPhone 7? Waouh, c'est dur comme question. Je dirais que l'iPhone 7 est un petit peu plus haut de gamme. Le OnePlus 5, je pense qu'il est un poil moins cher, même encore aujourd'hui. Cassim dit les deux. Moi, je dirais que ça dépend de si tu aimes bidouiller ton téléphone ou pas. Si tu aimes tout faire à ta sauce exactement comme tu le veux, va plutôt vers Android. Si tu aimes une machine avec laquelle tu es un petit peu plus tranquille, va plutôt vers iPhone. Ouais, c'est dur comme question. Les deux sont très bons, quoi. Vas-tu refaire un Techscope? Bah, écoutez, si Jérôme a besoin de moi de temps en temps, pourquoi pas. Oui, le OnePlus 5 est à moins de 400 euros en moyenne. Donc oui, il est clairement moins cher. L'iPhone 7 reste à quoi? Peut-être 600, quelque chose comme ça, un petit peu plus même. Donc le OnePlus est moins cher. Oui, si Jérôme a besoin de moi, pourquoi pas, à condition de pouvoir faire ça à 10h du matin, c'est ça? Ou 9h si je suis en Finlande, histoire que ça soit 10h pour moi. Je ne suis pas du matin, hein, vous l'aurez compris. Mon avis sur le Shadow PC, écoutez, ça marche correctement. Quand je suis en France, ça fonctionne. Je suis souvent en Finlande aussi, et ça marche aussi, un petit peu moins bien, bien sûr. Moi, j'attends que l'app marche mieux qu'elle ne marche aujourd'hui. Je trouve que l'app a un petit peu de lag en plus. Pourquoi la Finlande? Ma femme est finlandaise. Donc, on passe du temps en Finlande régulièrement, en fait. Donc, la machine elle-même fonctionne très bien, hein, le boîtier. L'app fonctionne bien, mais pas très bien, je trouve. Il y a un petit peu plus de lag. Donc, c'est ça qui est. Mais je dis ça pour les jeux, par exemple. Pour les applications bureautiques, même avec l'app et même à l'autre bout du monde, ça fonctionne quand même très très bien. Donc, je suis content du Shadow PC. Je sais que Jérôme est tout le temps à jouer dessus. Et quand on est en fibre, bah forcément, ça marche super bien, quoi. Shadow marche toujours pas avec Overwatch? Bah si, ça marche avec Overwatch. Pourquoi? Si, moi j'ai l'impression que ça marche avec Overwatch. Je sais pas pourquoi Christophe dit que ça marche pas, mais moi j'ai pas de souci avec. Enfin, avec le lag, mais si c'est le lag, peut-être, ça je sais pas, mais non, moi j'ai pas de problème avec. Jimmy demande si je vais acheter l'iPhone 10. J'hésite encore, au revoir Damien, bonne journée. J'hésite encore, mais je tends plutôt vers le oui pour le travail. Voilà, je suis pas 100% convaincu. Je trouve que j'ai été un poil déçu par le manque de les bordures, la finesse des bordures. J'aurais voulu penser que c'était un petit peu plus fin que ce qu'on a vu. Mais bon, je sais pas, on verra. Clairement, là on dit souvent pour le travail. Dans ce cas, c'est vrai, ça joue. Peut-être que ce n'est pas le facteur déterminant, mais ça joue. Jérôme me demande quel métier je fais. Je suis podcasteur. J'ai un podcast qui s'appelle Le Rendez-vous Tech. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Le Rendez-vous Jeu. Les deux sont bimensuels et toutes les 2 semaines, on résume en fait l'actualité de la tech ou du gaming avec d'autres intervenants. C'est un panel, on fait 1h30 à peu près chaque 2 semaines et on résume toute l'actu. Et je suis soutenu par la communauté, par Patreon, en fait, qui est un petit peu comme Tipeee hein, pour Jérôme. Et voilà, donc je suis propulsé par ma communauté, un petit peu comme Jérôme, qui décide de payer ou non pour l'émission. Jacqueline demande à quand un rendez-vous, un Phileas Club en français? Oui, c'est. Non, non, Upload, c'est pas fini, on a repris là. Donc, Upload existe toujours, tout à fait. Oui, le Phileas Club en français. Alors, Phileas Club, c'est une émission que je fais en anglais, qui est très différente, où je couvre avec des invités de différents pays, différentes cultures, etc., l'actualité internationale. On peut te suivre sur quoi? Ben, si vous avez une application de podcast, soit l'application podcast d'Apple sur iOS, soit par exemple Podcast Addict sur Android, sur iTunes, sur toutes les applications de podcast. En fait, moi j'aime bien, il y a Pocket Casts qui marche bien, Downcast, Podcast Addict, ils sont très bien. Et vous recherchez le nom du podcast, et par exemple le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu. Et vous pouvez vous abonner, et du coup, ça télécharge tout seul les épisodes nouveaux quand ils arrivent. Il y en a plein d'applications de podcast. Et puis, je suis sur YouTube aussi, où je mets l'audio des émissions, mais bon, c'est pas hyper marrant de juste écouter l'audio sur YouTube, mais il y a des gens qui le font sur la chaîne, c'est Patrick Béja? Je sais même plus, ouais, je sais plus le nom de la chaîne, on va voir, youtube.fr/Patrick Béja. Ou notre Patrick, je crois que c'est Patrick Béja. Hop. Ouais, c'est bien ça. youtube.com/Patrick Béja. Il y a toutes les émissions qui sont uploadées dessus également. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, le podcast, c'est une émission uniquement en audio. Donc, vous pouvez écouter ça en faisant votre jogging, votre lessive, machin, c'est ça. On m'a déjà proposé de faire de la radio ou de la télé. Bah, pas vraiment. Ce n'est pas un truc qui m'intéresserait forcément, à moins qu'on me propose, parce que, comment dire, tu peux pas faire du YouTube à la télé, par exemple. Tu ferais, c'est beaucoup plus formaté, c'est différent, bah, c'est pareil à la radio. Donc, si on me proposait de mettre mon émission à la radio, pourquoi pas, mais c'est pas ça qu'ils veulent à la radio. Ils veulent qu'on fasse de la radio. Et c'est pas vraiment, vraiment la même chose, quoi. Donc, moi, c'est pas forcément un truc qui m'intéresserait, je pense. Oui, le Phileas Club, effectivement, ça serait intéressant en français, mais c'est compliqué d'avoir des gens d'autant de pays différents qui viendraient parler en français ou en anglais, je ne sais pas. Enfin non, en français, je veux dire, puisque ça serait une version française. C'est pas évident, quoi, d'avoir des gens... oui, la francophonie est large, mais déjà, j'ai un petit peu de mal avec les anglophones parce qu'il faut vraiment des gens de plein de pays et de plein de zones, zones horaires, de fuseaux horaires, voilà. C'est pas facile à faire, cette émission, vraiment. Et l'idée est vraiment d'avoir des opinions différentes, des opinions, des cultures différentes, des gens, même vraiment, j'essaye d'avoir, par exemple, des gens qui ont soutenu Donald Trump, par exemple. Et moi, c'est pas vraiment mon avis politique, mais j'essaye d'avoir des gens de ce bord-là, j'essaye d'avoir des gens... j'ai un ami saoudien qui vient souvent nous parler des choses. Enfin, voilà. Et donc, en français, je pense que ça serait encore un petit peu plus compliqué. D'où vient le nom du Phileas Club? Le Phileas Club, en fait, c'est avec un L, c'est Phileas Fogg, de Autour du Monde en 80 jours. Donc, voilà, je me suis dit que ça serait sympa, comme on est mondiaux. Et d'autres questions, combien d'auditeurs en moyenne par émission? C'est difficile à évaluer, mais plusieurs dizaines de milliers. Voilà, on est dans cet ordre, on va dire autour de 40-50 sur le rendez-vous tech, un petit peu moins sur les autres, mais... quelque chose comme ça. On n'est pas à des niveaux de vue de YouTube, par exemple. Comment je suis arrivé à ce métier? Je suis arrivé à ce métier par passion. Jérôme, tu me dis s'il faut qu'on coupe l'émission. Là, tout à coup, les questions sont arrivées. Donc, comment je suis arrivé à ce métier? C'était avec le jeu World of Warcraft. Moi, j'y jouais beaucoup, il y a plus de 10 ans. Et j'écoutais des podcasts en anglais sur le jeu, et j'en voulais un en français, il n'y en avait pas. Et du coup, je me suis dit, bah, il n'y en a pas, donc je vais le faire moi-même. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, et je suis complètement tombé amoureux du média podcast. Donc, c'est vraiment un média qui a une liberté, c'est un petit peu tout ce que j'aime, quoi. Il y a un petit côté technologique, un petit côté éditorial, journalistique, un petit côté artistique, d'une certaine manière. Dans certaines émissions, tu donnes le ton de ce que tu veux. Un petit côté égocentrique, parce que c'est les gens qui m'écoutent parler. Je pense qu'on est tous dans ce genre de métier un petit peu égocentrique, quoi. Généralement, pas trop. Ça reste suffisamment pour qu'on ait besoin de cette qualité pour s'exposer au jugement des gens, quoi. Donc voilà. Il y avait d'autres questions. Hop. Je cherche les autres questions. Blizzard te manque pas? Si, un petit peu. Forcément, un petit peu. J'ai travaillé à la société Blizzard, donc qui édite le jeu, qui produit, qui développe le jeu World of Warcraft. Comment dire? C'est sans doute le métier que j'aimerais faire si j'étais pas podcasteur. C'est le seul métier que je préfère faire. Oui, ça me manque un petit peu. J'y étais cette semaine pour voir les amis. J'y étais pas allé depuis quelques mois. Et j'ai passé un bon moment avec eux. Et puis oui, j'ai revu les amis, les trucs. C'était un super moment. J'y ai passé 5 ans quand même. J'étais prêt à faire autre chose et l'opportunité de faire des podcasts s'est présentée. Donc, c'était un petit peu... tout s'était bien goupillé, quoi. C'est le salaire qui manque. Bah, écoutez, même pas tellement, parce que grâce au soutien des auditeurs par Patreon, et puis bon, j'essaye de faire plein de choses aussi, j'ai réussi à me faire un salaire assez correct. Bon, maintenant, il y a le dollar qui chute, donc comme tu payes en dollars, c'est un petit peu... compliqué, mais non, franchement, je touche du bois, je croise les doigts, je remercie ma communauté 10 millions de fois, ça se passe correctement. J'ai de quoi payer le loyer, soutenir ma famille et acheter à manger. Donc, ça va. Pour mieux te connaître, faut regarder ton portrait. Il est bien fait, l'interview. Ouais, effectivement. On avait un portrait qu'a fait Corben, sur lequel a un petit peu travaillé aussi, enfin, qui avait produit Corben et qui avait été réalisé par Florian Belmonte, et Jérôme avait travaillé sur les graphismes. C'est une interview qui est disponible sur la chaîne de Corben, qui est une quinzaine de minutes, et ça montre bien un petit peu ce que je fais, comment je le fais, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur la chaîne YouTube de Corben, K-O-R-B-E-N. Des projets de nouveaux podcasts, pas vraiment. Enfin, j'ai plein de trucs que je voudrais faire, mais je fais déjà trop de choses, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, je fais le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, Upload, Positron. Ça, c'est en français. En anglais, j'ai le Phileas Club et Pixels, qui est un podcast sur le jeu vidéo, mais en anglais. Et je participe aussi, en tant qu'intervenant invité, à Daily Tech News Show, en anglais, The Instance, un podcast sur les jeux Blizzard et principalement World of Warcraft, aussi en anglais, Overwatchers, sur le jeu Overwatch, en anglais aussi. Donc, ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Comment il s'appelle l'autre YouTuber gaming qui vit en Finlande ? C'est Benzaï, mais il ne vit plus en Finlande. Il est retourné en France, si je crois, en tout cas. Quoi d'autre ? Bon, on va peut-être arriver au bout. Invites-tu des développeurs ? Pas vraiment. Alors, c'est une question intéressante. J'ai des amis dans ce domaine. Que penses-tu de Kassim ? Je préfère pas vous le dire, parce que Kassim, il est particulier. Je fais Donald Trump. Alors, Kassim Ketui, franchement... Bon. oui, les développeurs. En fait, quand j'ai quitté Blizzard, j'ai dû prendre une décision assez importante sur la manière dont j'allais faire mon métier. J'avais donc mes amis de chez Blizzard qui m'ont donné les adresses, email, les contacts de tous les responsables PR de Paris. Et donc, je me suis demandé si j'allais les contacter. J'ai beaucoup réfléchi. Finalement, j'ai décidé de pas du tout contacter les sociétés que je vais couvrir. Alors, Blizzard, c'est particulier parce que j'y ai bossé. Et de toute façon, je les adore et c'est spécial. Mais d'une manière générale, j'ai pas vraiment de contact avec les développeurs pour des questions d'indépendance, pour pas me faire emmerder, pour tout ça. J'ai pas vraiment besoin d'eux. Je fais pas des tests en permanence, donc j'achète quand même beaucoup de jeux pour me tenir au courant, mais il n'y a pas d'impératif à ce niveau-là. Donc, j'ai pas du tout de contact avec les sociétés. Il m'arrive d'avoir des contacts avec des développeurs ou des gens de ce milieu parce que c'est des auditeurs. J'ai eu, par exemple, dans le rendez-vous jeu, il y a quelques mois, Nicolas Laurent, qui est l'un des pontes de chez Riot Entertainment, qui édite League of Legends, qui développe League of Legends, le plus gros jeu du monde. Et je lui ai proposé de venir dans l'émission. On avait eu une super discussion sur les jeux, sur l'actualité normale. Et puis après, on avait parlé un petit peu de Riot et de leur aventure. Mais ça, c'était vraiment une initiative très personnelle et qui s'est faite comme ça, quoi. D'une manière générale, je ne cherche pas d'interview de développeurs, je ne cherche pas d'intervention de développeurs. Et c'est pareil pour la tech. Je ne me fais jamais prêter de matériel, je n'ai pas de contact avec les sociétés. Et en tant que podcasteur, on est un peu sous le radar de toute façon. On n'est pas les YouTubers qui ont un petit peu genre « Ah, les YouTubers, c'est les influenceurs, les machins ». Podcasteurs, on sait qu'on est là, mais on ne nous connaît pas vraiment, c'est relativement confidentiel. Moi, ça me convient, je dis pas que j'aimerais pas qu'on soit un petit peu plus connu, mais ça ne me gêne pas justement parce qu'on a notre petite communauté, on a notre petit coin d'Internet, on n'a pas les trolls, on n'a pas les gens qui viennent nous emmerder. Quand j'ai des contacts avec la communauté, c'est juste On n'a pas besoin, par exemple, de modérateurs pour les commentaires. Enfin, ça arrive jamais, quoi. On a juste des gens sympas. Les conversations sont bienveillantes. On s'engueule un petit peu parfois, mais enfin, c'est spécial, les podcasts, quoi. C'est vraiment un truc. Et moi, je chasse pas la vue. Je suis un petit peu dans la même situation que Jérôme, où je fais plutôt de la, entre guillemets, c'est même pas une question de qualité, mais j'ai pas besoin de faire de la quantité ou du. On est un petit peu dans la même situation parce que moi, je suis soutenu à 100% par les auditeurs qui choisissent de donner de l'argent. Donc, à la limite, si on veut parler en termes mercantiles, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de fois qu'une émission ou qu'une vidéo sera vue. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes qui vont estimer qu'elle est suffisamment bien pour donner 1 $ par épisode, ou 2 $, ou 3 $, ou ce que c'est par épisode. Et c'est une manière d'aborder les choses très, très différente. Donc, ça me permet de ne pas avoir à, par exemple, aller demander le dernier jeu, des tests de trucs, des tests de téléphone pour faire le truc au moment où il sort. Moi, je suis sur un autre registre. Donc, bref, pour répondre à la question, est-ce que j'ai des développeurs dans les émissions? Généralement, non, ça peut arriver, mais c'est pas le but. J'aime pas le format interview, j'aime pas les trucs comme ça. Moi, je commente plus que je n'interviewe. Quoi? Est-ce que tu as déjà testé une distribution Linux? Il y a très longtemps, j'avoue. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment que j'ai pas testé Linux. Il faudrait que je reteste. J'ai un avis un petit peu fait sur Linux, mais il faudrait que je reteste, effectivement. Je le mettrai sur une machine virtuelle à un moment. Quoi d'autre? À quand le retour dans la cave du Captel? L'épisode 38 attend sa suite. C'est vrai, c'est vrai. Tuto, tu es un connaisseur. Quand je suis en Finlande, c'est difficile. Maintenant, je suis en France. C'est dur. Ils font ça la nuit et tout. J'ai un vrai métier maintenant. Je fais du podcast. Maintenant, c'est plus compliqué. Je sais que tu n'apprécies pas trop Julien Chiez, mais l'inviterais-tu dans le rendez-vous jeu un jour, vu qu'il n'est plus à Gameblog? Alors, j'apprécie pas trop Julien Chiez. Franchement, si. Enfin, non, je ne suis pas super fan de son style, mais j'ai rien contre lui, on va dire. Voilà. Est-ce que je l'inviterais maintenant qu'il n'est plus à Gameblog? La question n'était pas qu'il soit à Gameblog ou pas. Je trouve qu'il est un petit peu polarisant. Je ne suis pas contre l'idée sur le principe de l'inviter. Mais j'ai pas vraiment de contact avec lui à la base, donc ça ferait un petit peu artificiel, quoi. J'invite mes amis, des gens que je connais. Généralement, j'essaye de faire les choses comme ça. Les gens avec qui j'ai des atomes crochus. Donc, je vais pas forcément. Si on se rencontre un jour, pourquoi pas? Si on se met à se parler sur Internet, pourquoi pas? Je veux dire, j'ai rien contre. Mais là, aujourd'hui, me dire, ah, je vais aller inviter Julien Chiez, machin, ça ferait un petit peu artificiel. Donc, a priori, c'est pas au programme tout de suite. Je dis pas que ça arrivera jamais. Hein. J'ai rien contre lui. Je trouve qu'il est, justement, enfin, il est passionné. Il fait pas les choses comme moi je les ferais, mais il est passionné. C'est un gamer authentique. Enfin, voilà, il y a aucun souci avec Julien. J'ai rencontré une ou deux fois d'ailleurs comme ça en passant. Mais apparemment, il reste 2 heures et demie pour précommander un iPhone 8 sur Cdiscount. Donc, écoutez. Allez-y, j'imagine que les choses ont déjà été assez longues sur le Techscope aujourd'hui. On a fait une longue partie sur moi à la fin. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt. On va s'arrêter là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous pouvez aller sur Twitter, c'est NotPatrick sur Twitter, ou alors sur le site FrenchSpin.fr, FrenchSpin comme la tournure française. Et donc notre Patrick sur Twitter. Et je vous remercie grandement d'avoir été très nombreux. Vous êtes quand même nombreux encore à être restés jusqu'au bout. C'était très sympa, comme toujours, de passer un moment en votre compagnie et avec le public de Jérôme Kainborg, qui est évidemment de grande qualité. Si vous avez un moment demain, on se retrouve au Corcoran à 16 h. Si vous voulez venir passer un petit moment entre geeks, ça serait sympathique de le partager avec vous. Donc, au Corcoran du Sacré-Cœur à 16 h. Et voilà, ça va être tout pour cette émission. Lundi, c'est Jérôme et Marion qui reviennent. Je crois qu'ils seront en vacances. C'est bien ça. Je ne sais plus où ils reviennent de vacances. Non, je crois qu'ils seront. Non, si, ils reviennent de vacances puisqu'ils faisaient le truc depuis. Voilà. Ah, écoutez, Jérôme le dit. Avec Marion, c'est pas Jérôme et Marion, pardon, c'est juste Marion qui revient lundi, et comme elle, c'est pas une grosse feignasse, bah, elle sera là à 8h, contrairement à moi qui fais des choses à 10h. Et mardi à Amsterdam, Jérôme, bah, écoutez, ça promet. Je pense qu'il risque de faire un texcope un petit peu particulier.